Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus bande-annonce. I carved it in the wall. Hang up the phone! The tree, the door, the gate, I've never seen it before except in my dream. You don't have much time. You're gonna use a weapon. You raise the phone, step back, and swing. Look what you made me do. Please hurry! You remember what I told you? That someday I should stand up for myself. Someday is today, Finn. C'est la nouvelle production des studios Blumhouse, Black Phone. Un film réalisé par, je n'arrive plus à relire cette
Scott
fiche,
Derrickson.
Tout à fait, Scott Derrickson, avec Mason Thames, c'est apparemment c'est le seul acteur notable. Je dis apparemment, puisque je n'ai pas vu le film, ce sont Jean-Victor et Justin qui vont nous en parler.
On peut citer un certain Ethan Hawke au casting.
On peut, effectivement, c'est ce qui me semblait. J'étais là, c'est un
petit gars qui a fait quelques films.
Voilà, un petit
jeune avec un grand avenir.
Ouais. Exactement, prometteur, surveillons-le. Du coup, je vais laisser Justin nous en parler, puisque, encore une fois, Jean-Victor a mis une sale note, donc voilà.
Je suis le buzz killer.
Donc, Black Phone, ça se déroule donc dans une petite ville des États-Unis dans les années 70, où sévit une espèce de croque-mitaine de serial killer qui s'appelle l'attrapeur, qui enlève régulièrement des enfants... qui disparaissent voilà de la ville, et puis dans cette ville vit le jeune Finney, et donc qui est un petit peu malmené par ses camarades, un peu souffre-douleur, et donc il a un de ses amis qui est un petit peu le dur à cuire du bahut, qui le défend souvent, voilà, dès qu'il se retrouve à être intimidé ou à être malmené, il se retrouve à être défendu par lui, et il se trouve qu'à un moment donné, ce meilleur ami aussi va être victime de l'attrapeur. Je sais même pas comment on suit. Et il va être victime de l'attrapeur, donc le héros se trouve d'autant plus vulnérable à ce moment-là de ses tortionnaires à l'école, et aussi finalement de l'attrapeur qui va lui mettre le grappin dessus. Mais en fait, le héros est de toute manière déjà un peu victime dans son quotidien, puisqu'il a vécu avec un père qui a un peu des tendances un petit peu violentes, qui les frappe souvent avec sa petite sœur, parce qu'en fait la petite sœur a des pouvoirs psychiques. Une sorte de... D'ailleurs, il faut rappeler, le film est écrit par Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Donc, il y a des éléments un peu... Il y a un petit côté Shining par moment aussi au niveau de l'intrigue. Donc, la sœur Gwendoline a des pouvoirs psychiques. Et ce qui avait valu à leur mère de perdre la raison de suicider. Donc, le père, dès qu'elle manifeste quoi que ce soit de ces éléments de pouvoir psychique, il va la frapper, il va la maltraiter, quoi. Donc ils sont un petit peu en contexte familial un petit peu difficile,
et les samedis soirs sont pas très fun,
voilà. Et donc Finney va se retrouver à son tour victime de l'attrapeur, qui va l'enfermer dans une espèce de bunker en sous-sol. Et ce bunker a une particularité: il y a un téléphone où il n'y a pas de tonalité, un téléphone non raccroché au mur. Ouais. Et en fait, il va recevoir régulièrement des appels sur ses téléphones de l'au-delà, en fait, des anciennes victimes de l'attrapeur, qui vont lui donner des tips, des astuces pour pouvoir... pour se voir... Il n'y a pas de mauvais... Non, mais ça, ça fonctionne.
Top 5 des gestes pour se faire désattraper.
Voilà. Parce qu'avant lui, ils ont essayé de s'évader avant lui. Donc, ils vont lui donner des astuces, ils vont lui donner des éléments pour essayer de marcher sur leurs traces et de lui réussir à s'en sortir, finalement. Donc, je vous vois rigoler, il n'y a pas de mauvais pitch en fantastique. C'est le traitement qui fait tout, en fait. Et là, en l'occurrence, ça marche.
C'est-à-dire que ça donne envie, en plus. Hein. Enfin, moi, je rigole, mais
t'as
je rigole.
T'as une bonne partie du film, quand même.
Non, c'est le début.
Ouais, c'est le 45 minutes, quoi.
Ouais. Et donc...
Après, est-ce qu'il y a vraiment des spoils Les gens, ils ont déjà vu les films.
En général, ils écoutent.
C'est vrai que je dis ça parce que le film est vraiment vendu sur ce principe de gamin qui se fait kidnapper et qui se retrouve dans la pièce avec le téléphone. Et c'est vrai que t'as toute cette exposition qui dure quand même plus d'une demi-heure. Mmh.
Mais
qui est assez surprenante quand tu découvres.
Mais c'est important pour.
Qui est hyper importante, mais qui est pas du tout.
Parce que c'est une caractérisation,
c'est
un des atouts du film. Je trouve que vraiment, il y a une caractérisation forte sur les protagonistes, ce qu'ils vivent. Et la corrélation avec la confrontation avec le serial killer joué par Ethan Hawke. Le film est assez efficace là-dessus, parce qu'il y a déjà pour le coup le serial killer, je parlais, donc, est vraiment intimidant pour le coup, et vraiment méga flip.
Et il est très chelou.
Il fait pas grand chose, mais il est vraiment, vraiment, vraiment flippant, parce qu'il a... Il est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il a ce côté, bah, tout ce que peut avoir les sadiques, ce genre de protagoniste, c'est-à-dire un côté doucereux, c'est-à-dire au moment où le héros il se réveille dans ce bunker, il a un côté très attentionné, voilà, d'être envers lui, et il a une astuce qui consiste en, une fois qu'il a fini de ce côté très maniéré, très attentionné, il le laisse dans ce bunker, et il laisse la porte, il ferme la porte, mais il ferme pas à clé. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a oublié, ou on se demande pourquoi. Et en fait, il a un côté, son sadisme repose sur le fait de punir, en fait. Quoi. Il laisse la porte ouverte pour que le héros essaie de s'évader, d'ouvrir la porte. Et il l'attend avec une ceinture, avec un monde, il y a un plan d'ensemble, où on le voit dans la cuisine, à la sortie du bunker, des escaliers qui montent. Et il l'attend avec une ceinture, avec un espèce de masque. D'ailleurs, il y a un élément comme ça, il y a un masque qui sourit ou qui fait des grimaces.
Ouais, qui change de visage.
Voilà, qui change de visage, qui est soit du haut du visage, soit le bas du visage, ou qui sourit ou qui fait des grimaces à différents moments du film qui est lié aux émotions du moment. Et donc, il y a des moments où il l'attend. Donc, à un moment donné, il lui laisse volontairement la porte ouverte pour qu'il essaie de s'évader. Et il l'attend avec une ceinture, avec le casque. Tu sens que tout d'un coup, il devient très intimidant. En plus, le film Ethan Hawke l'a tourné au moment où il sortait de The Northman. Donc en fait, il était baraqué, c'était une armoire à glace.
Stuck, le mec.
Donc, à un moment donné, on se retrouve comme ça avec ce casque. Et il l'attend sur une chaise comme ça avec la ceinture. Donc il est vraiment très, très, très intimidant. Et ça fait forcément un parallèle avec ce qu'il vit dans son quotidien, avec son père qui le cogne. Quoi. C'est un parallèle assez évident. Et donc le téléphone est là pour le prévenir. Voilà, tous les appels de l'au-delà sont des étapes qui construisent en fait tout un cheminement dans le film qui servira à la toute fin pour qu'il puisse s'en sortir. Hein, voilà. Et c'est assez bien foutu quand même. Ça fonctionne bien. Je pense. Bah après, je vais te laisser parler. Je parlerai d'autres éléments après, mais je vais te laisser.
Non, mais moi j'aime beaucoup la première partie. Je trouve que toute l'exposition. Déjà, il y a ce premier truc, c'est que le film se passe dans les années 70. Et t'es dans une petite bourgade aux États-Unis avec des gamins qui font du vélo, etc. Et tu te dis tout de suite, oula, on va nous refaire une Stranger Things bis ou ce genre de truc. Et parce qu'il change d'époque et il s'adapte vraiment à l'esthétique de l'époque qui est beaucoup moins néon, etc. Je trouve qu'il arrive déjà à tirer son originalité là-dessus et il dépeint surtout. Et là où vraiment je trouve le film super fort, c'est qu'il dépeint la fin de l'innocence face à la violence et ces gamins qui en prennent plein la gueule à l'école avec ce gamin qui se fait bully. Ils sont assez vénères, les gosses, quand même, à ce moment-là. Il y a notamment un moment, une baston où vraiment ce qu'ils se foutent dans la tronche, t'es là, putain. Et en plus, il y a le cadre familial, etc. Il y a vraiment cette idée de ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans un monde qui va leur en foutre plein la gueule coûte que coûte et où les adultes ne servent plus à rien. Parce qu'ils sont, absents, ils sont distants, et à chaque fois qu'ils arrivent pour essayer de régler le problème, il est trop tard. Et il y a une espèce de cruauté dans le film, ou en tout cas de radicalité sur la confrontation entre l'enfance et la violence, et le passage à l'âge adulte quelque part, en découvrant que le monde est violent, qui est super âpre, et qui est en plus un vrai élément tragique et narratif dans l'écriture des personnages, et qui rend en fait ces gamins super attachants. Et je trouve que là-dessus...
Notamment, je pense, la relation frère-sœur.
Ouais, les deux.
Franchement, ça marche, mais...
Qui en prennent plein la gueule avec leur père et qui essaient de s'en sortir à l'école.
Qui s'entraident tous les deux, on sent la complicité. Enfin, les deux acteurs...
La petite sœur qui est là derrière, à chaque fois que son frère se fait bully, et qui essaie de l'aider alors que bah, elle est plus petite, quoi. Et il y a un truc là-dessus, je trouve, vraiment, en termes d'écriture et même de filmage, il y a une sensibilité de la part de Scott Derrickson, qui est pas franchement un mec que j'aime bien pourtant à la base, que je trouve assez étonnant. Et surtout que tu te dis, bon, c'est pour ça aussi que je revenais sur le pitch de base et la façon dont le film est vendu, où on dit, bah, c'est un gamin, kidnappé dans un sous-sol avec un téléphone de l'au-delà. Et en fait, le film a beaucoup plus à offrir que ça. Quoi.
Il y a toute une construction.
Il y a une vraie construction dramatique et une peinture d'une certaine Amérique quand même qui est quand même assez franc du collier et qui marche très bien.
Et dans ce que tu dis, un élément intéressant que je trouve, parce que donc on a parlé du père qui leur tape dessus, ça pourrait être caractérisé d'une manière, vraiment manichéenne, quelque chose de bas du front, vraiment juste le méchant que papa qui t'a... Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait.
Ah ouais.
Parce que c'est un mec qui est paumé. C'est monsieur tout le monde qui est dépassé. Voilà.
Et du coup, il a pas de thune, donc il fait ce qu'il peut.
Il picole le soir parce qu'il a que ça à faire. Et il est vraiment bien caractérisé. L'acteur est assez bon pour montrer ce côté paumé. Donc c'est pas juste le père fouettard qui est là pour finalement... Il fait passer une émotion quand même.
Non, il y a un truc qui le rend un peu attachant.
Le père fouettard, le côté père fouettard dénué de tout sentiment, de tout, c'est le serial killer. Quoi.
Ouais.
Où c'est là où c'est vraiment l'incarnation de la menace vraiment il est juste là pour se délecter de la souffrance qu'il inflige, ou de psychologique ou
oui,
physique.
Oui, il fait peur avec ses masques.
Voilà, il est vraiment là pour ça. Alors que le père, il y a une nuance, même si voilà, il n'est pas excusé ou quoi que ce soit
non,
par rapport à son
tout.
Comportement.
Il y a un truc qui est assez âpre là-dessus dans l'évolution du film, mais on va pas tout révéler non plus. Mais non, du coup, je trouve que le film est vraiment étonnant pour ça, cette peinture-là et cet l'attachement qu'il arrive à créer autour des gosses, alors que en l'occurrence, l'acteur principal, je le trouve pas très très bon, le héros. Je trouve que pour le coup, ça se rejoue beaucoup mieux.
Ouais,
et, mais lui, bon, il est pas fou. Mais après, il y a vraiment cette première demi-heure qui m'a vraiment chopé, et je trouve que malheureusement, la partie fantastique avec le téléphone, etc., le concept est super accrocheur, l'idée de que, bah oui, les fantômes se succèdent pour t'expliquer comment t'en sortir.
Et mine de rien, il y a des, alors, parce que les jumpscares, on en a tous marre, machin, il y en a un qui marche, le premier, avec le premier coup de téléphone,
ah oui, oui,
où il y a un fantôme capable, parce qu'au début, on connaît pas le postulat.
Après, ils sont tous dans le trailer, hein. Si vous avez vu le trailer, ils sont tous là.
J'avais pas vu le trailer, moi, du coup, j'avais aucune image en tête.
Du coup, j'attendais, j'étais là, oui, bon, il y a celui-là, je l'ai vu.
J'avais aucune image en tête, et le premier coup de fil, et puis il décroche, et puis il tourne, et puis il y a l'apparition, bah, du coup, le protagoniste qui l'appelle au téléphone, il le voit, il voit son fantôme qui apparaît,
ouais.
Et ça marche quand même.
Ouais, c'est assez glauque en plus,
quand même,
la peinture du truc.
Surtout le décor, ouais, en plus le bunker.
Il se matérialise avec la tronche un peu défoncée, ouais. Et tout, et là. Mais il y a ce truc où à la fois le concept il est accrocheur, il fonctionne, et il est vraiment sur des rails, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a le premier coup de fil, bah, tu sais qu'il va succéder au coup de fil, il va juste écouter ce que les gamins lui disent, et il finira peut-être par s'en sortir.
Mais il y a quand même une construction dramatique, parce que c'est des gamins anonymes qui connaissent pas pendant tout le film. Enfin,
oui,
il y en a certains qui connaissent pas, il y en a certains qui connaissent juste de vue, et puis à un moment donné, il y a son meilleur pote qui avait l'habitude de le défendre, qui va avoir au téléphone à un moment donné. Et en fait, c'est ce pote-là qui lui dit, bah, maintenant, t'as toujours su te défendre. Parce qu'en fait, on comprend que le fait qu'il est un père violent, en gros, il se faisait bully parce qu'il n'osait pas se défendre, parce qu'il avait un père violent. Mmh. Et le fait de se défendre, de faire peur lui aussi de violence, c'était quelque chose qui le répugnait ou qui l'inhibait. Il n'osait pas se défendre vraiment. Et donc, à un moment donné, son pote lui dit, non, mais tu t'en es capable aussi, t'en as toujours été capable. Il y a une espèce de... Voilà, une espèce de petite construction dramatique qui marche
super
efficace.
Sur l'écriture, ça marche, mais l'utilisation du fantastique m'emmerde un peu dans le sens où je la trouve facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péripétie. En fait, il n'y a jamais d'embûche dans son évolution à partir du moment où il a le téléphone. Et notamment, enfin, le personnage d'Ethan Hawke, il en branle pas une du film. C'est quand même un délire. Mais notamment un moment où il y a une grille sur la fenêtre, la seule fenêtre qu'il a dans sa cave, là. Il l'a fait tomber par un procédé un peu ingénieux. Et le mec s'en rend jamais compte. Ce gars se dit, attends, il a pété la grille, le gamin, quand même. Non, il capte rien de ce que fait le gosse, alors que le gosse est quand même en train de faire des trucs pas possibles dans son dos pour essayer de s'en sortir. Et le mec capte que dalle.
De toute façon, il vient pas souvent le voir. Hein.
C'est le pire kidnappeur de la planète.
Non, mais parce qu'en gros, non, parce que lui, il attend qu'une chose, c'est que le gamin sorte et qu'il lui fasse sa fête.
Il vient quand même le voir et tu te dis, mec, t'es pas con, tu sais comment elle est foutue, ta pièce, tu l'as construit exprès pour pouvoir kidnapper des gamins. Tu vois rien de ce qui se passe autour.
En même temps, il sait que c'est un piège, il peut pas sortir. En fait, il est sûr de son piège aussi.
Oui, mais tu vois, le gamin fait quand même des trucs un peu aberrants vu son pauvre statut de gosse enfermé dans une cave, et le gars voit que dalle, était là. Bon, ça arrange clairement les scénaristes,
le seul truc que je trouve facile, bon, j'en dis pas plus, mais il y a un élément avec un autre personnage qui habite au même endroit et qui...
Oui.
J'en dis pas plus, mais qui, ça, c'est une facilité.
Oui, qui a une grosse
douille, c'est
un peu, scénario.
C'est un peu grossier, quoi.
Ouais. Mais sinon, et t'as deux, trois trucs d'écriture comme ça où tu te dis, bon, en fait, le scénario, il y a des trucs qui les ont foutus sous le tapis parce que ça les arrangeait pour pouvoir garder la structure du film. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que quand tu te prends une première demi-heure comme ça, tu viens voir à la base un film d'horreur un peu basique sur le principe et qui a une vraie qualité d'écriture, qui a une vraie qualité dans la construction de ses personnages et qui tombe quand même dans des travers un peu faciles, tu vois, un peu trop Blumhouse de base.
En plus, dans cette caractérisation, il y a une vraie volonté du film parce qu'en fait, dans la nouvelle de Joe Hill, en fait, il y a un seul coup de téléphone. Il y a pas plusieurs protagonistes. En fait, il y a un protagoniste qui l'appelle et qui l'avertit régulièrement, mais il y a pas cette construction. Il va avoir toutes les victimes au téléphone pour arriver jusqu'au pic.
Alors oui, c'est le fils de Stephen King, mais c'est un mec qui est un peu spécialisé dans l'écriture de la petite enfance qui en prend plein la gueule, parce que c'est notamment le créateur de Lock and Key. Donc, si vous avez vu la BD ou vu la série, bon, j'ai pas vu la série, mais je crois que la série est quand même un peu moins vénère que la BD. Mais les gamins en prennent plein la tronche. Et c'est quelqu'un qui est vraiment coutumier de ça et de, voilà, confronter la petite enfance au mal, quoi. Et donc, le pitch
donc,
est super.
Donc, papa Stephen King.
Papa n'est pas très loin.
Papa était pas sympa, qu'est-ce qu'il y a des trucs.
Dans Lock and Key, la BD, t'as la mère alcoolique qui s'occupe plus de ses gosses. Il y en a un qui pense se suicider.
Ils sont confrontés à un serial killer et tout.
parce que sa famille a besoin de lui, enfin c'est, il y a des trucs, ouais.
Bah, le premier tome est super vénère, quoi. Ouais. Je me suis
putain. Parce que papa Stephen King à l'époque où ils étaient gamins, il aimait bien la coke, il aimait bien boire aussi, donc peut se demander à la loco
quotidien. Ça explique peut-être le papa dans le film.
Voilà, on sait pas.
Mais malgré tout, je trouve le film chouette parce que vraiment il y a une qualité d'écriture qui est poussée. Et tu sens que vraiment c'est un truc qui traverse, qui intéresse vraiment Scott Derrickson et qui vraiment il s'est passionné là-dessus. Et c'est pas du tout le petit film d'horreur à jumpscare à la con que la promo peut vendre en mode blumhouse, quoi.
Et puis un truc qui est un peu primaire mais qu'on n'y a plus trop droit finalement dans les films d'horreur actuels, parce qu'il faut être subtil ou il faut finir sur des notes ambiguës ou faux machin. Là il nous offre le petit plaisir primaire du front mais qui fait du bien, c'est-à-dire à la fin, le serial killer, voilà, c'est une ordure, Ethan Hawke, vraiment le salopard absolu tout le film. Puis la fin du film, tu vois le héros lui mettre cher quand même, mais genre bien, quoi. Genre, tu t'es là, tu es dans la salle, t'es...
Vas-y, Bobby.
Parce qu'aujourd'hui, les films...
Allez,
parce que les films, non, on n'ose plus, maintenant, faut...
Non, mais ouais, sur la question de la violence, le film est vraiment...
Faut être ambigu, faut être dans la retenue, faut être... Là, c'est le moment...
On va parler de The Sadness juste après.
On y va petit à petit.
Le moment revanchard, quand il arrive, t'as le payoff, t'as vraiment le côté qui fait plaisir, tu dis, bon... Oui, il lui fait sa fête, hein. Je dis bon, merci.
Mais dès le début, vraiment, tu vois, encore une fois, quand tu reviens sur juste les bastons de gamins et tout, t'es là, putain, enfin, les gosses, c'est quand même un truc aux États-Unis auquel on touche pas trop.
Ouais, parce que t'as deux gamins qui se battent au début, et là, les gamins, le meilleur pote qui se bat avec un autre, et puis ce qu'il lui met dans la tronche, je dis waouh.
J'avais pas vu ça depuis un film que j'adore pour le coup, qui est sur Netflix, qui s'appelle Super Dark Times. Qui parlent d'ados qui sont livrés à eux-mêmes et qui tuent un de leurs potes par erreur, et pareil dans un monde où les adultes les ont complètement délaissés, et qui est un film qui est super prenant et dramatique et très très beau. Il y a un peu de ça dans Black Phone, c'est atténué parce que c'est pas malheureusement le fil tout du long, mais vraiment ce truc là où tu te dis bah il y a une qualité d'écriture qui est surprenante pour ce genre de prod.
Ce final, voilà, oui. Il nous fait plaisir, hein, parce que des fois, parce que on le voit, franchement, c'est que aujourd'hui on le voit plus, parce que faut toujours que ça soit une fin ouverte ou une fin ambiguë.
Oui, il n'y a pas de scène post-générique dans
Black Phone. Non, là, c'est, il lui met bien cher, et puis il retourne à l'école en bombant le torse.
Il n'y a pas la suggestion que peut-être ça pourrait recommencer.
Il n'y a pas le The Black Phone Will Return. Non,
et ça finit, et puis je rentre à l'école, bombe le torse, il y avait sa petite copine au début qui l'aimait bien. Qui se met à côté de lui, qui fait ça y est, t'es revenu, je suis là, tout va changer. J'ai le truc un peu bateau, un peu con-con, mais ça fait du bien des fois.
Ouais, mais elle est pas si con que ça, cette scène de fin, parce que la façon dont il l'amène, tu montres qu'il est pas gargarisé par ce qu'il a fait, parce qu'il a vécu et qu'il veut juste aller de l'avant.
Il recroise les bullies.
Ouais, mais lui,
parce qu'ils le savent tous qu'il a buté son serial killer.
Lui, il est en mode, la vie continue, tu vois, ne me parlez plus de cette histoire. Pour les fans de Mosinor. Mais je trouve que c'est assez. Ça pourrait devenir un truc quasiment réac, quoi, en mode bien niquer sa gueule, quoi. Et non, justement, tu dis gamin, il passe au-delà de ça.
Alors, c'est pas réac, par contre, Scott Derrickson, il a un côté catoporn. D'habitude, je crois que c'était l'exorciste d'Emily Rose. Bon, là, il s'est retenu, mais il y en a un petit peu quand même, genre, à un moment donné, quand la petite sœur perd, elle recherche son frère, elle prie et fait Jésus.
C'est un des trucs que j'aime le moins chez lui.
Il a ce côté un petit peu, c'est l'horreur catho. Il s'est retenu là.
Ça avait donné l'exécrable de Délivrez-nous du mal avec Eric Bana, qui est une merde, mais alors son nom est.
Après, j'aime bien son Sinister. Sinister est assez flippant, quoi. Donc là, c'est un mec inégal, mais c'est quelqu'un qui est quand même capable
inégal,
de
bien faire. C'est un type inégal, mais là, on est dans la bonne partie de Scott Derrickson.
Parce que même son Doctor Strange n'était pas si mal aussi, mieux que le Rémi, pardon, les fans de Rémi.
Je suis fan de Rémi et je confirme tes dires.
Voilà.
Alors, sur ces propos quelque peu provocateurs, je ne sais pas.
j'ai appelé le Charles Bronson.
Personnellement, je m'en fous, hein, de Doctor Strange, enfin voilà, hein, pas de souci. Mais je sens qu'on va partir sur des tangentes un petit peu pour lesquelles on n'a pas le temps. Je pense que c'est un bon moment pour conclure du coup cette discussion pour Black Phone, dont on comprend que pour le coup, sans vous avoir transporté, il vous a ma foi plutôt bien plu.
C'est pas mal. C'est franchement pas mal.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.